trees are green.
Please evacuate this building. Please evacuate this building.
Il faut se retirer les doigts du nez. Oui, c'est obligatoire.
Bois un explosion. Ça écoute là-bas ou pas?
Eh hey, oh!
Bois en expansion. Un magazine pour discuter, échanger.
Informer, dénoncer.
Sensibiliser, balancer.
Et mémoriser.
C'est qui d'après vous?
Voix en expansion.
Attention, les voix s'étendent,
s'épandent et s'accroissent,
se développent, augmentent,
se diffusent et se propagent sur le web,
sur les ondes et dans l'espace. Attention, voix.
Voix en expansion.
Un magazine autoconstruit par l'association La Malle aux Libertés.
Ouh, ça c'est de l'information. C'est clair, c'est précis. Je vous tire son chapeau, madame.
Eh bien, Annette, bonjour. On a de la chance aujourd'hui.
Sur Voix en expansion, on a la chance dans notre petit studio de la Grange au Loup d'avoir Virginie et Fabien.
Voilà, c'est comme par hasard. Il fait froid. Il y a de la neige, hein, et là, on entend les hurlements. Donc, Virginie et Pilon et Fabien Brugman.
Bonjour.
Voilà. Bonjour.
Bonjour. Mais quelle idée de venir ici?
L'idée, en fait, on vous a rencontrés à la fête de la nature, et puis, du coup, l'idée, enfin, on avait bien accroché, donc du coup, on s'est dit, on va aller voir où ils vivent, et puis le Vercors, c'est...
Mais il y avait d'autres intentions, il me semblait. On faisait une petite pause, il paraît.
Oui, aussi une petite pause insolite dans votre écolite.
Ouais, d'accord, mais je vois pas la promotion. C'était plutôt un cadre de travail, on m'a dit.
Oui, aussi. Ah. Aussi, le repos.
Poser un peu les choses.
Ouais, qui permet de pouvoir mieux travailler.
Qu'est-ce que ça... Allez, dis-nous, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas le droit de le sortir tout de suite. T'inquiète pas, on va tout représenter après à nos auditeurs, mais ils ont l'habitude. Hein.
En fait, notre intention, c'était de pouvoir travailler sur un scénario pour un documentaire qu'on souhaiterait faire par rapport à une aventure qu'on a vécue en Italie.
D'accord.
En famille.
Ok.
Qui s'appelle Elliot et Léo.
Ah d'accord.
Alors Elliot, qui est donc le prénom de votre premier enfant.
Exactement.
Ah, tu sais tout, toi, tu sais tout. Donc, pour nos auditeurs, ça ne se voit pas et nous, on ne sait pas tant qu'on n'a pas ouvert le livre. Fabien est photographe animalier et passionné, évidemment, de la grande faune, mais tu t'es dirigé derrière la queue du loup pendant certains temps.
Pendant pratiquement 10 ans,
ouais. Ouais.
Moi, on a rencontré notre premier loup sauvage avec Virginie en Alaska.
Ouais.
Et ce loup n'est pas passé très loin et en fait, on s'est regardé. Et moi, ça a fait un peu tilt. Et puis, depuis ce jour-là, je me suis pris d'affection pour cet animal qui en manque royalement. Parce que c'est l'animal pratiquement le plus détesté, je pense, en France.
Mmh. Avec le requin pour les dom-tom.
Ouais, en tout cas l'animal, le mammifère terrestre, quatre pattes le plus détesté. Et moi j'ai toujours aimé les grands prédateurs, donc j'ai commencé à travailler un petit peu sur les ours. Et puis ensuite les loups et les lynx chez nous, puisque...
Alors pour nos auditeurs, travailler ça veut dire quoi, travailler avec les ours et les loups?
Ça veut dire, en fait c'est un gros métier de glandeur, mais on est tout le temps dehors en train d'attendre les animaux, donc finalement on fait pas grand chose, à part beaucoup marcher. Mais l'idée c'est de faire des images. Et puis après, éventuellement, une fois qu'on a une quantité d'images suffisante, de sortir un ou des livres comme on vient de le faire.
D'accord. Mais l'idée
voir
c'est...
voir les images en plus. Hein.
Voilà, wow. C'est ça. Voilà, je crois que l'idée, c'est carrément de la composition nature. Il y a un côté très graphiste, ça c'est vrai qu'on l'a tout de suite vu. Donc c'est pas la chasse au loup photographique, c'est placer les éléments dans la nature. C'est ça qui nous a interpellés vraiment. Bon, déjà, d'avoir des photos de loups, c'est extraordinaire. Bon, ça, pour tout naturaliste et même les personnes, on le voit que comme un. On voit le loup que quand un.
Ah bah,
voilà.
Faut y passer.
Et là, On a l'impression que le travail que tu as fait, notamment dans les Abruzzes, là tu disais les Abruzzes, donc pour nos auditeurs, c'est entre Rome et Naples, les montagnes un peu comme ici, hein, comme le Vercors. Ouais. Et là, c'est de là où viennent tous les soucis pour tout le monde. Ils sont arrivés jusque-là quand même. Hein.
Bah oui, donc les qu'on a chez nous viennent de là-bas. Ouais.
Ah, travailleurs immigrants. Ouais. Hein, c'est incroyable, ils viennent
du
Sud.
D'ailleurs, qu'ils sont si bien accueillis chez nous.
Hein. Ah, ouais. France, ah oui, oui, voilà, les similitudes sont très proches. Donc, vous partez là-bas et vous prenez du temps pour pouvoir aller jusqu'au bout de votre travail. C'est ça, c'est un côté perfectionniste, on parlait tout à l'heure.
Oui, en fait, moi, j'y suis allé pendant 6 ans, mais en pointillé. Donc, j'allais par morceaux de 15 jours voilà, pendant plusieurs années. Et puis après, on a eu envie de... Bah, j'ai d'abord eu envie de partager ça avec Virginie, parce qu'elle est autant passionnée que moi, bon, un petit poil moins, mais elle aime aussi être dehors, marcher, observer les animaux. Bon, elle n'est pas forcément photographe, mais... Ça, c'est juste une finalité. Et du coup, on a eu envie de monter ce projet-là parce qu'on avait envie de faire quelque chose en famille. On avait envie de sortir notre fils de sa petite routine à 3 ans et demi. Mais surtout qu'il puisse voir autre chose. Et puis, on s'est bien rendu compte que, comme tu disais, photographier le loup, c'est extrêmement difficile. Donc là, l'idée, c'était vraiment de prendre du temps, quoi. Prendre du temps sans aucune pression. Et en fait, généralement, moi, je vois que ça marche comme ça pour moi. Quand je prends le temps de faire des choses et que je ne me mets pas de pression, ben, en fait, les choses se font, quoi.
Alors que c'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais, en fait, les choses vont se mettre en place.
Ouais, c'est ça.
Et elles se mettent en place et elles se concrétisent. Et c'est vrai qu'on arrive à un ouvrage extraordinaire. Avec, d'abord, il y a deux ouvrages, hein, c'est ça hein.
Oui.
Il y a un ouvrage donc, qui est vraiment un bijou artistique, entre la photo du monde animal, mais aussi de la nature. Et un deuxième ouvrage, on parlera tout à l'heure, qui est... Donc, Elliot et les loups, qui est ouais. le carnet de voyage, et qui est vraiment... le loup n'est pas caché sous le lit, et le loup n'est pas dans le truc.
Donc, vous partez tous les trois, Elliot c'est a trois ans Elliot. Et demi, ah non, c'est le vous partez combien de temps?
Alors, au départ, on part 9 mois,
ouais.
Et puis en fait, on se trouve relativement bien là-bas, donc...
On
voulait rester un petit peu plus longtemps.
En fait, on est aussi une petite Emma.
Ah. Entre temps, on a la sœur d'Eliott qui est
là-bas.
Voilà. Bon, Virginie est quelle aventure quand même.
Virginie est déjà partie enceinte de toute façon.
Ouais, de toute façon, c'est quand même une belle aventure quoi.
Mais hein. Du coup, bah, ça pousse.
Donc vous partez à 3, vous revenez à 4.
Ouais.
Voilà.
Plus les images. Plus avec plein d'idées dans la tête, c'est-à-dire la réalisation déjà très concrètement. Tu dis qu'il faut finir les choses, donc le bouquin pour, je veux dire, artistique. Qui a un titre, non, c'est...
Loup sauvage par nature.
Loup sauvage par nature, qu'on retrouve pas, c'est vous qui l'avez édité, l'acheter par correspondance.
On a un site internet, ça s'appelle...
D'accord, on mettra tous les liens, donc, voilà. Avec les photos et autres. Et ce carnet de voyage, qui est un prémisse à autre chose, c'est pour ça que vous êtes là, parce que vous commencez à travailler sur un film.
Sur un documentaire,
on le dit, exactement. On peut
en fait,
le dire.
L'idée, c'est...
Oui. Enfin, il va sortir d'une manière ou d'une autre.
L'idée, c'est vraiment sensibiliser le grand public au fait que, ben, que la cohabitation est possible avec les activités humaines et ben, les habitations des hommes, enfin de tout un chacun. Et en fait, la portée du livre est beaucoup plus réduite que si on sort un documentaire. Donc là, on est effectivement en recherche d'une production.
Alors pourquoi pas faire, par exemple, comme on peut voir, un reportage sur les paysans des Abruzzes, la façon, l'impact, le parc.
Mais parce que c'est pas notre style. Vu que tu as lu un petit peu le livre, nous, ce qu'on aime, en fait, ce qu'on veut faire et ce qu'on va faire, de toute façon, c'est ce documentaire, on le veut, en fait, avec un ton léger, déjà. Parce que le loup, c'est quand même pas très léger chez nous, en termes de communication. Et surtout, complètement décalé. Parce que l'idée, c'est vraiment de jouer avec Elliot. Hein. On n'est pas là pour instrumentaliser qui que ce soit. Mais vraiment, la façon dont on a fait tout ce voyage, c'est qu'on a joué avec Elliot. Quand je dis jouer, c'est que pour lui, c'est amusant d'aller à l'affût, même si c'est très difficile, parce qu'il fait froid, c'est long, on s'embête. Mais on a vraiment joué avec lui. Et en fait, on tourne tout ça un petit peu, peut-être pas en dérision, mais en tout cas... On amène une petite touche rigolote dans tout ça. Et l'idée du documentaire, c'est ça. C'est de faire quelque chose de complètement décalé et pas du tout sérieux.
Il y a une page, là, justement, dans le livre, que comment partir avec un enfant de 3 ans à l'affût. Alors, c'est quoi la recette?
Mais vous lire le livre. Non, bah oui, justement, il y a... Bah c'est à partir des faits réels vécus avec
Parce que même si on va voir, par exemple, dans le Vercors, uniquement... Le cerf, ça demande quand même du boulot, quoi, avec un gamin de 3 ans. il y a une volonté de. Les parents, ils y vont, ils sont motivés.
Ah non, mais c'est hyper galère. Hein.
Ah, galère, d'accord. Ah ouais, le mot galère, et toi alors, tu dis
vas-y. Non, c'est une grosse galère de faire ça.
Parce que déjà,
mais justement, bah, c'est ça qu'on a dans la page là, de la recette réussir un affût animalier avec un enfant. Mmh. Effectivement, bah, le côté galère, on le montre. Mais tout en étant rigolo, en rajoutant
on transforme, entre, voilà, entre quelque chose de marrant, quoi.
Voilà, des petites choses rigolotes.
Et c'est comme tout dans la vie, quoi. Pour un même événement, tu peux le prendre gravement ou de manière plus
Donc,
légère.
Donc au moment où le loup arrive, maman, pipi.
Par exemple.
Voilà.
Ça, c'était... Voilà. Par exemple.
Par exemple.
Ah, mais il l'a déjà fait en début d'affût, effectivement. Peut-être pas au moment où le loup arrive, mais tu t'es tout bien installé... On est tout prêt, et là, avec la grosse salopette de ski, machin, maman, pipi, et là, faut tout enlever, oui. Ouais,
et papa
clair. Et papa, bah,
papa il, pour lui, c'est papa plus cool, parce qu'en général, c'était maman qui était à la pluie. Avec...
Papa, lâche pas l'appareil photo, tu sais, idiot.
Non, mais le truc, c'est que moi, je me mettais souvent en phase 2.
Ah, d'accord.
Voilà, on s'arrangeait pour avoir systématiquement une
zone ouverte. Ah, tu fais deux affûts, toi. C'est-à-dire que tu surveilles en même temps les...
L'idée, c'était surtout d'essayer de prendre une image où les loups passent devant l'affût avec Elliot.
Ah, voilà. Et c'est, on ne le dit pas si ça a été réussi ou pas.
Si, on peut le dire parce que ça, pour l'instant, à ce jour, ça n'a pas été réussi, donc on l'a pas dans le livre. On a une image qui est intéressante parce que les loups allaient passer devant nous et on fait demi-tour, mais c'est complètement indépendant.
On voit quand même des images extraordinaires. Donc, alors, c'est vrai que c'est les abruges, mais... Quand même, pour nos auditeurs, il y a un enfant, le renard, on se dit, mais c'est quand même... Alors, c'est vrai qu'il y a toujours des... Bon, il n'y a pas de triche, quoi. C'est quand même des animaux sauvages. C'est pas... parce qu'on aurait pu mettre les loups du parc, là, n'importe où.
Non, jusqu'à la fin, toutes les images sont vraies, quoi.
Ouais, voilà. C'est ça, c'est le jeu, quoi. C'est le jeu.
Il n'y a pas de nourrissage, voilà. Mais c'est tout l'intérêt d'avoir 14 mois, finalement, à passer sur le terrain. Quand on n'a que 2 mois, les gens qui ont des films, genre Perrin, des gens comme ça, ils ont un timing hyper serré. Donc, forcément, ce sont tous des animaux imprégnés. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec un dresseur, on fait faire ce qu'on veut.
Ce que tu n'as pas précisé, c'est que c'était dans un parc national, donc son chat.
C'est un parc national. Sans aucune chasse depuis 80 ans.
Alors ça sera un deuxième volet. On va mettre un petit peu de musique, Annette. Et on va vous laisser la place pour choisir quand même la musique. Donc réfléchissez bien.
Eric Bibb, moi j'aime bien.
Me and my wife was walking around town, and everywhere we went people turned us down, Lord, in a bourgeois town. Bourgeois town. I got the bourgeois blues. Gonna spread the news all around. Home of the brave, land of the free. I don't wanna be mistreated by no bourgeoisie in a bourgeois town. Bourgeois town. I got the bourgeois blues. Spread the news. My wife was standing upstairs, heard a white man say, I don't want no niggas up there in a bourgeois town. Bourgeois town. I got the bourgeois blues, gonna spread the news all around. Well, the white folk in Washington show know how. Call a colored man a nigga just to see him bow in a bourgeois town. Bourgeois town. I got the bourgeois blues. Gonna spread the news all around. Thank you.
to me. Don't you try to buy no home in Washington, D.C. It's a bourgeois town. Bourgeois town. I got the bourgeois blues. Gonna spread the news all around.
Donc toujours voix en expansion avec Virginie et Fabien.
Voilà, pour le début, le prémisse, mais quand même un gros travail avant. Un film, on ne sait pas comment il va s'appeler, mais en tout cas, nous, on a le livre qui s'appelle Elliot.
Voilà, Elliot et les loups.
Et les loups. C'est pas un petit conte pour enfants, c'est un conte familial, pour de vrai. C'est-à-dire que cette fois-ci, c'est pas le loup qui court après le chapeau en rouge. Elliot est avec sa petite combinaison rouge de ski et il est au milieu des loups des Abruzzes. Et c'est là qu'on revient à ce paysage des Abruzzes qui ressemble étrangement au Vercors, c'est-à-dire étrée sapinière avec un mauvais temps aussi, un climat un peu,
un peu rude.
Et là, tu disais juste, on était en train de se dire, ces Abruzzes, d'un coup, on peut voir renards, loups, tout ça. Comment ça se fait en fait, Fabien?
Bah, comme disait Virginie, en fait, on est dans un parc national, donc, qui est assez petit, d'ailleurs. Et,
par rapport au Vercors
Je ne connais pas la taille.
Non, mais je veux dire, ça fait quelques communes, ça fait un peu le Vercors Sud, un peu, ça fait...
Je pense qu'on a à peu près, on a à peu près quoi, 20 km de longueur sur 10 de large.
D'accord, ça fait... C'est vraiment petit. Ça, hein. Ça fait le Vercors Sud. Hein.
Ouais, c'est vraiment petit. Par contre, ce qui est vraiment intéressant là-bas, c'est 90 ans sans chasse.
90 ans sans chasse? Mais comment est-ce possible?
Mais non, ce qui est possible, c'est d'avoir 90 ans avec de la chasse. En fait. Ce qui paraît impossible, c'est d'avoir ça.
Bien.
là-bas, ça se passe de manière naturelle. À partir où on met pas les pieds dedans, de toute façon, ou le doigt dedans.
Est-ce que tu sais pourquoi, comment ça s'est mis en place là?
Alors oui.
Comment ça se fait?
La création du parc a été mise en place pour protéger le chamois, parce qu'ils ont un chamois qui ressemble à l'isard, donc qui a plusieurs couleurs, contrairement au chamois jurassien par exemple, et qui est un chamois très particulier, qui est endémique.
Au début, c'était un peu pour la chasse, pour le trophée, ou c'est... un peu comme le Grand Paradis, où c'était des gens qui voulaient
garder... Non, mais garder. Ça a toujours chassé, je veux dire,
ça a toujours chassé, mais il fallait...
Voilà, ça chassait. Voilà,
et voulait après, garder ce chamois parce qu'il était, c'était vraiment
endémique. Il n'en restait plus beaucoup.
Voilà,
donc ils se sont dit, on va protéger le chamois.
Ouais. La camochala.
La camochala.
Voilà. Donc le chamois, c'est le camoche.
Ouais, la camochala, c'est...
Donc ça, c'est la première zone de protection là-bas, et puis de fil en aiguille, ben, ils se sont mis à effectivement plus chasser du tout, donc... Les animaux sont revenus. Alors, ils ont réintroduit le cerf. Le cerf avait été éradiqué par la chasse.
Comme dans presque les trois quarts des endroits.
Plein d'endroits. Hein? Donc, ils ont réintroduit du cerf. Et
j'espère qu'ils n'ont pas mis le chambord, parce que sinon...
C'est... Non, c'est du gros cerf, par contre. C'est assez impressionnant, parce que normalement, le cerf de montagne est un petit cerf.
Ouais.
Ce sont des petits cervidés. Et là-bas, ce sont des très, très gros cerfs, parce que ce sont des cerfs des pays de l'Est.
D'accord.
Donc, ce sont des cerfs énormes. Hein. On a des très, très gros trophées.
Ouais.
Et donc, du coup, ben, les cerfs ayant été réintroduits, on avait beaucoup à manger, il y a du sanglier qui est revenu naturellement.
Mmh.
Et puis, forcément, quand on a des proies, on a les prédateurs qui reviennent, qui ont toujours été là.
Mais ils n'ont pas disparu, surtout. Il n'y a pas eu ce passage où, par exemple, dans le Vercors, 44, boum, plus d'ours.
Là-bas,
non, il est toujours resté, peut-être en limite, mais il est toujours resté là.
Ils étaient en limite d'extinction, mais ils sont restés, ce qui a changé beaucoup les choses.
Les mentalités
aussi, parce que les gens ont toujours vécu avec
Alors,
ça.
Alors, dans un fameux spectacle... qui s'appelle Lupo et Renard, peut-être qu'on dit des bêtises, mais on a l'impression que l'italien a un autre rapport culturel avec la grande faune. C'est-à-dire que nous, on bat ça avec Saint-François d'Assise, etc., Romulus Rémus, mais ce sont des montagnards et on sent qu'il y a moins la trouille. Est-ce que c'est vrai, ça?
Oui, complètement, mais ça revient à ce que je disais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de rupture.
Il n'y a pas eu de rupture.
Les gens, en fait, si vous voulez, ce qui est rigolo là-bas, c'est que ce sont les mêmes loups qu'en France.
Exactement. Ouais. J'ai vu un loup là, il est passé devant chez nous, il parlait italien, il avait un accent.
Ouais, hein. C'est ça, il parlait avec les pattes en fait.
Ouais, il parlait avec les pattes.
Et donc, ce sont les mêmes loups. On a la même faune sauvage.
On a
du cerf, on a du sanglier. On a les mêmes animaux d'élevage.
Mm-hmm.
On a de l'élevage, donc les mêmes problématiques. Et au final, on a 50 fois moins de problèmes là-bas. Donc, le seul paramètre qui est différent.
Attends, mais on a de l'élevage de montagne dans la PAC, enfin dans l'Europe.
Mm-hmm.
Alors, attends, mais parce que là, je comprends pas. Il y a des loups, il y a des moutons, il y a des gens qui cultivent, il y a des vaches et des ours.
Et en plus, ils ont des ours.
Et sa vie.
Qu'on n'a pas jusque-là.
C'est-à-dire qu'on n'est pas, des lieux complètement désertés.
C'est étonnant.
On est d'accord. Il y a même du ski, non?
Elliot allait à l'école.
Alors, il y a un peu de ski, mais tu sais ce qui fait vivre la majorité des gens dans les Abruzzes, c'est le tourisme.
Le tourisme, gens, tu veux dire, il y a une plage ou non hein?
T'imagines, à 1200 mètres, là, les plages italiennes sont très réputées, mais à zéro. Ouais. À 1200 mètres, il y en a un petit peu moins. Donc bizarrement, on a à peu près 1 million de personnes qui passent sur un secteur de 20 par 10 kilomètres et qui viennent voir les loups et les ours, bien évidemment.
Mais non.
Donc, aussi étrange que ça puisse paraître, il y a une économie.
Tu veux dire qu'on n'est pas obligé de faire et à l'ours, ouais,
tu veux dire qu'on n'est pas obligé de faire une luge mécanique qui marche l'été, l'hiver pour attirer des gens. La nature,
là-bas,
la nature est partagée, j'allais dire. C'est un partage pour tous.
Dans plein de pays, en fait.
Dans plein de pays. Alors, c'est partagé tout type de public, des écoles. Vous qui êtes resté un peu là-bas, vous voyez quoi comme public? Qu'est-ce qui passe là?
Elliot était à l'école, mais...
Non, mais donc, je veux dire, quel type de public? Parce qu'on va... ça peut intéresser quand même le Vercors, on ne sait jamais, on a une belle nature. Moi qui suis allé dans les Abruzzes, on n'a rien à cacher. Les Abruzzes, c'est beau, mais le Vercors... entre ces falaises et autres.
Un peu plus varié que les Abruzzes.
Comment?
Oui, le Vercors est un peu plus varié.
Ouais,
par contre, le gars qui veut chercher un loup, il peut mettre 10 ans dans le Vercors, alors qu'il va peut-être mettre.
Non, mais ça j'ai bien compris. Mais juste pour la notice, j'ai bien compris parce qu'on est bien placé pour le savoir.
90 ans.
Juste pour la notice. Voilà. Imaginons, alors tout à l'heure on a eu la notice qu'on aura dans le livre un peu plus perfectionné, comment faire un affût. Ils ont réussi à développer dans la pérennité, j'allais dire, sur les 90 ans petit à petit, un tourisme nature. Basé sur les grands prédateurs, qui chez nous, c'est la grosse peur et c'est plutôt une histoire de conflit. On voit l'ours des Pyrénées ou le loup. Donc ils ont réussi. Alors comment ça se passe? Il y a des bus, parce que tu me dis c'est petit. Qu'est-ce qui se passe? Comment ils sont les touristes là-bas? C'est des gars comme toi, toujours avec des appareils photos?
Beaucoup de gens d'appareils photos, beaucoup avec des jumelles. Parce que les animaux, une fois de plus, 90 ans sans chasse. Les animaux ne sont pas très difficiles à voir. Je mets ça entre guillemets quand même. On peut passer 2 semaines sans en voir un, mais... Mais disons que c'est possible.
Alors tu vas le soir, tu vas au bord de la rivière, et matin,
matin et soir, mais les Abruzzes c'est très ouvert. Ce sont des milieux assez ouverts, c'est montagne, mais c'est très ouvert. Donc du coup, avec une bonne paire de jumelles et quelques connaissances sur le terrain, on arrive à trouver des zones où on peut effectivement arriver à voir ces animaux, ou de loin ou de près, pour ceux qui ont de la chance. Mais ce qui est intéressant dans le rapport avec ces animaux-là, c'est que les Italiens se fendent la poire quand ils entendent parler des problèmes en France. Parce que les petits Italiens, notamment les enfants, les copains d'Eliott par exemple, ont tous vu des loups et des ours. Et quand on leur dit que chez nous,
Et alors, est-ce que pour eux, c'est un moment magique? Est-ce qu'ils sont contents?
Alors, les loups.
Oui, ils sont contents d'avoir vu.
Les loups, pas plus que ça. Les loups, c'est normal chez eux.
Ah,
en fait, c'est assez impressionnant. Ils sont quand même.
Oui, ils sont toujours.
Non, mais je veux dire, est-ce que. Il y a eu un truc à l'école. Tiens, on a vu un ours ce matin, sympa, ou.
Ça va pas jusque-là, mais disons qu'ils sont en fait, ils partagent énormément. Ça, c'est un truc assez impressionnant.
Ils travaillent beaucoup autour de la nature.
Et ils sont tous au courant. C'est-à-dire que s'il y a un ours qui est passé dans le village, par exemple, voilà.
Notre amie Sophie intervenait beaucoup dans les écoles.
Ouais.
Et ils travaillent quand même beaucoup autour de ces grands prédateurs.
Il y a quand même une volonté éducative des locaux pour continuer ce lien. Parce qu'on a conscience que c'est ces enfants-là qui vont aussi vendre ce produit, j'allais dire, leur pays, quoi, autour de l'ours et du loup.
Ah, pour eux, c'est une vraie valeur ajoutée.
Vraie valeur ajoutée. Tu disais qu'il y a tout qui est marqué, les gîtes.
Tout s'appelle du loup, de l'ours ou du chamois ou du cerf.
D'accord, c'est une marque.
Ça, et dans le vivre avec, il y a aussi, dans ce respect, tu nous disais qu'il y avait des cerfs qui étaient dans le village, etc. Et que était un peu prioritaire, par exemple.
C'est pas possible, bien sûr, dans le village, Annette.
Nous, on habitait dans un village qui s'appelle le village au cerf. Enfin, son petit surnom, c'était le village au cerf. Le brame du cerf, il était devant nos fenêtres.
C'est écrit sur le panneau. C'est pas que un surnom, c'est écrit sur le panneau à l'entrée d'agglomération.
Non, mais vous rêvez, là. Tu veux dire que le cerf peut manger les
petits enfants n'ont pas encore.
Non, mais je veux dire, par exemple,
fruitiers des gens, oui, dans les jardins.
Devant chez eux.
Ouais.
D'ailleurs, les gens font gaffe, il y a beaucoup de barrières. En fait, les maisons sont extrêmement fermées avec des barrières. Et c'est étonnant parce que c'est des gens très ouverts, tout le monde se connaît. Mais en fait, c'est pour protéger leurs petites plantes, leurs petits ours des cerfs. Mais sans que ce soit une fois de plus agréable. Alors, évidemment, il y a 2-3 personnes qui râlent quand le cerf vient manger ses plantes.
C'est normal.
Évidemment.
Ah, moi, si mon lama s'échappe, c'est mon voisin. Mon voisin qui est gentil.
Il n'est pas content.
C'est normal, c'est dommage qu'il n'ait pas des poules. Mais si ses poules venaient chez moi, je ne serais pas content non plus. Voilà.
Mais disons que là-bas, ceux qui veulent conserver leurs plantes ferment la barrière, ceux qui s'en moquent laissent tout ouvert.
Ça a l'air un peu idyllique, là, votre histoire. On a l'impression d'être sur un petit nuage au-dessus de Rome et Naples. Bon, c'est, c'est pas vrai. Moi, je peux pas croire avec toute la haine qui est sur le ours. Nous aussi, on a. Alors, l'ours, on n'en parlons pas, c'est nos amis du Pyrénées. Mais alors, le renard, on flingue comme un.
Le mal aimé.
Alors, j'arrive pas à comprendre. Mais là-bas, alors, tu me dis, il n'y a pas de chasse. Mm. Ok. Peut-être que ça fait comme une grosse réserve de chasse. La preuve, on sait qu'on a vu que les loups, bah, c'est vrai que ce sont territoriaux. Et d'après ce que j'ai compris, ils viennent des Abruzzes, c'est les mêmes. C'est leurs cousins, quoi. C'est des petits-enfants et autres. Ouais. Parce qu'un loup se déplace beaucoup, c'est ça.
Un loup est capable de se déplacer beaucoup. Il peut faire jusqu'à 100 km en une seule nuit. Mais s'il a besoin.
Ah, ça m'a retenu.
Il a besoin de, du coup...
Bon, ils ont besoin de se déplacer, mais de se dépenser.
D'un territoire, enfin...
Il a besoin d'un territoire assez important.
D'un nouveau territoire,
mais une fois
en
plus,
fait, pourquoi il se déplace.
La taille du territoire va en fait dépendre du nombre de proies.
C'est un opportuniste.
C'est toujours tout bête. S'il y a énormément de proies sur un petit territoire, même une grosse meute de loups va avoir un petit territoire.
Alors, est-ce que ça, c'est pas une solution pour nos... Par exemple, pour nos éleveurs qui crient à tue-tête, on en parlera peut-être dans un deuxième volet, mais Annette, parce que quand même, je pense que là, on a des gens qui ont vécu dans les Abruzzes, hormis le film qu'on clivera là-dessus, mais c'est quand même assez extraordinaire de se dire, parce que ce sont des Latins, c'est quand même des gens, enfin, un Italien, surtout dans le Vercors, il y a beaucoup d'Italiens qui sont venus pour construire les routes, pour faire couper du bois, et puis qui sont restés là, ou après-guerre, et on peut vivre alors avec l'ours et le loup.
Bon. Est-ce que...
On va mettre une petite musique pour essayer de réfléchir, Annette, je pense.
Ok.
Moi, je pense une petite musique. Virginie, t'as un truc?
Moi, je voulais une To The Wild.
Ah, une To The Wild. Ok. On part sur le bus, alors.
Voilà. Cette saison.
No fear for when I'm alone. I'll be better off. Than I was before. I've got this life. I'll be around to grow. Who I was before, I cannot recall. Long nights allow me to feel I'm falling. I am falling, the lights go out. Let me feel I'm falling. I am falling safely to the ground. I'll take this hold that's inside me now. Like a brand new friend, I'll forever know. I've got this life in the will to show. I will always be better than before. Long nights allow. I'm falling, I am falling, the lights go out. Let me feel I'm falling, I am falling safely to the
Moi, ce que je suis surpris, si tu veux, et c'est bien d'avoir un témoignage en direct de personnes qui ont vécu là-bas. C'est vrai qu'on présente toujours les Abruzzes. Oui, mais alors ça se passe bien. Alors d'un côté, les écolos, évidemment, je schématise, bien sûr, volontairement, ils disent, oui, pourquoi eux, ils y arrivent et pas nous hein? Et les autres, ils disent, ouais, non, mais ça, c'est pipeau. Hein? Alors, qu'est-ce qui est pipeau? Parce que quand même, c'est loup. On les voit sur les cartes postales, ils sont gros, ils sont gras. Enfin, sur les cartes postales, sur les photos. Et en même temps, ils semblent bien portants, ils ne sont pas erratiques, il n'y en a pas un, il y a une meute, ensemble. On voit des photos, il y en a combien sur les photos?
Moi, la plus grosse que j'ai, ils sont... dans le livre, ils sont 9 sur la plus grosse meute que j'ai. Moi, j'en ai photographié
Alors,
maximum 10.
Parce que nous, si on voit 9 loups ici, il y a 25 hélicoptères, C'est-à-dire qu'il y a un bus, alors il y a un bus d'enfants qui part au qui part à la piscine, à Pescaceroli ou je sais pas quoi. D'un coup, il y a 9 loups qui sont sur le bord.
Le bus s'arrête, les gamins regardent, ils sortent les téléphones portables, ils font une photo, puis le bus repart.
Hein?
Voilà comment ça se passe là-bas.
Mais non, arrête, honnête. On est décalé là, c'est pas possible.
Ouais.
Mais c'est une question de religion ou quoi? Il y a un truc.
Bah, c'est presque ça.
C'est le curé du coin qui a fait quelque chose ou quoi, non?
Ou qui a rien fait justement.
Ah,
qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, dis-moi concrètement, en tant que naturaliste, qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'ils ont quand même le ventre bien plein, ils sont pas erratiques.
Ils ont plein à manger, pour ça, il n'y a aucun souci. Ce qui est vraiment intéressant là-bas, c'est que justement, toutes les populations vont bien. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de. Beaucoup d'herbivores, j'en parlais tout à l'heure.
Ouais.
Il n'y a pas de chasse. Donc il y a énormément de cerfs, énormément de sangliers. Mmh. Les cerfs et les sangliers sont les proies principales des loups.
Mmh.
Donc, vu qu'il y a beaucoup à manger, moi par jour, sans exagérer, je vois une cinquantaine de cervidés par jour.
Alors, mais là-bas. Attends, parce que alors, pareil. S'il y a des cerfs, il n'y a plus de forêt. Je l'ai déjà entendu. S'il y a des cerfs, il n'y a plus de forêt. Heureusement, on est là pour les réguler.
Oui.
Alors, dans les Abruzzes, il n'y a pas de forêt. Il n'y a pas de. Il n'y a rien.
Tu es allé dans les Abruzzes, t'as vu la.
Non, mais moi, je ne suis pas allé, l'auditeur n'y a pas été.
Mais qui régule les forêts alors?
Attends. Énormément de forêts.
Il y a énormément de forêts. Donc, en fait, la gestion de la forêt se fait aussi avec les cerfs et les loups.
Alors, en fait, pourquoi on râle sur les cerfs? C'est parce que les cerfs, quand ils n'ont pas de prédateurs, ils restent sur une zone donnée, sur un tout petit secteur. Et là, effectivement, ils vont faire des dégâts, même si j'aime pas le terme, parce qu'ils vont faire des dommages, parce qu'ils mangent tout le temps sur la même zone. Quand tu as des gros prédateurs, loup, lynx, bon, même si le lynx s'attaque pas directement au cerf, mais surtout le loup, il les fait bouger. Mm-hmm. Donc, même s'il y a beaucoup de cerfs, mais qui passent leur temps à bouger, le temps qu'ils reviennent, on va dire, à leur point d'origine, les arbres, ils sont déjà renouvelés. Donc, ils n'appauvrissent pas une zone. En fait, ils en mangent un petit peu partout. Mmh. Et du coup, comme chacun le sait, un cerf ça fait des crottes, et des crottes c'est aussi de l'engrais. Donc de toute façon, au fur et à mesure, il mange d'un côté, il fait de l'engrais de l'autre, etc. Donc il passe son temps à bouger. Et les loups maintiennent cette pression sur les... Et d'ailleurs, tous les gardes honnêtes de l'ONF pourraient te le dire, l'ONF aime les grands prédateurs. Ils le disent pas parce qu'ils ont d'autres intérêts.
Ah, je connais quelqu'un qui nous l'a dit à une émission précédente, quelqu'un voilà. De l'ONF, bravo. Ouais,
notamment les bracelets de chasse, qui sont très lucratifs, mais les loups aident, aident à la gestion des forêts, puisque justement ils empêchent les cervidés de manger sur des petites zones, et donc d'appauvrir, et de manger les jeunes pousses.
Et alors cet équilibre naturel sert en même temps l'homme sur place. Ça c'est assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'en fait, on a... Cet équilibre qui se met en place, et l'homme qui regarde et qui en plus en profite donc par le tourisme, c'est ça, et aussi par cette relation avec la nature qui éveille les enfants. Donc on en revient à notre éveil de notre petit Elliot, qui a ses 3 ans, est dans une nature, pour lui c'est normal, c'est complètement normal. Lui, qu'il passe d'ici ou qu'il passe là-bas, c'est pareil.
Exactement, Elliot marche depuis très longtemps. Pour depuis la petite anecdote, il a vu un cerf, lui, il a fait le brame du cerf à un mois et demi avec son papa, l'autre son papa. Il a vu son premier lynx ibérique à 9 mois. Un grand tétra.
Il y avait 2 ans.
À 2 ans.
Ah, vous cochez voilà, avec l'âge du. Parce que cocher pour les naturalistes, vous cochez. L'âge de l'enfant avec ce qu'il voit. D'accord. Ok.
Alors
je vois le truc.
Hier, on a travaillé sur notre scénario.
Non. Ok. Donc, alors.
C'était rigolo pour nous de nous dire qu'il avait.
On va pas rentrer dans l'intimité, mais au moment d'eux, Elliot a entendu les loups hurler. Ok.
Il a vu, oui.
Non, c'est une légende indienne.
D'accord. Mais il a quand même vu son premier loup à 3 ans et demi, de toute façon.
D'accord.
Sa première meute de loup.
Meute
de loup.
On revient un peu à ce côté mythique. Il y a quand même, tu le parlais tout à l'heure, une rencontre de loup déclenche le tout. D'accord. Le couple alpha, bêta, c'est vous. Vous ramenez vos loups, vos petits louveteaux près de celui qui a déclenché tout. Et qui vous tient aussi professionnellement, enfin, tu ne fais pas que ça, Virginie, je sais, mais qui vous tient dans vos réalisations, dans votre création. Quoi. Voilà. Et cette création se concrétise donc à travers ce livre. Et vous avez envie de le faire partager à un plus grand nombre à travers ce film.
Exactement.
Donc on est à la base du scénario qui en fait existe déjà finalement. Le scénario,
oui,
c'est
l'idée, c'est
l'idée.
L'idée, elle est là. Après le passer d'un livre à un film, il y a toute une mécanique qu'on n'a pas forcément.
D'accord. Alors il faut faire un appel ou pas?
Oui, exactement.
D'accord. Moins, vous avez des idées, des pistes de réalisateurs, des pistes de caméraman?
J'ai deux réalisateurs différents qui sont intéressés par le projet. Maintenant, l'étape réalisateur, elle est déjà...
Parce que Elliot, faut pas qu'il soit quand même en cinquième quand même.
Exactement.
Le problème, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on a...
Ah, le problème, c'est qu'il grandit. Et après, il mange les cerfs. Oh, c'est lourd, c'est incroyable.
Et là, on en est à l'étape production. C'est-à-dire, là, c'est la recherche de financement.
D'accord.
Là, aujourd'hui, on en
est. Mais bon, il y a la petite sœur.
Oui, je suis pas sûr qu'elle nous aide beaucoup pour
Emma
ça, mais...
Emma et les loups, hein.
Emma et les loups.
Ah, on sait pas.
Ou Emma et autre
on
chose.
Sait jamais, voilà.
Voilà.
Voilà, mais aujourd'hui, vraiment, ce qui nous manque, c'est ça. Et après, il nous faut une équipe pour pouvoir retourner sur place. Moi, j'ai énormément d'images de loups. J'ai tourné beaucoup de vidéos de loups, donc ça, j'ai de la matière. Mais par contre, il manque la construction du scénario version télé. Voilà, ça, je ne sais pas encore tout à fait faire. Même pas du tout. Et
voilà, où intervient Elliot, comment il intervient, si tu veux, parce que vraiment le
et lui, est-ce que vous pensez qu'il a un petit peu, bon, il a 3 ans, mais est-ce que
il adore
ça, est-ce que lui il pense un petit peu à ça, est-ce qu'il vous suit dans cette histoire là est-ce que par exemple là vous êtes parti, vous l'avez laissé aux grands-parents, vous avez dit ok, on va
non, là on est juste parti pour 2 jours, mais
vous l'avez dit, vous allez réfléchir sur quelque chose,
travailler sur Elliot et le loup, je sais pas, des fois on lui dit.
Alors est-ce qu'il le sait, ça?
Bah par exemple, la fois où on est allé au salon animalier, au salon de Montier-en-Der, la photo, on lui a dit qu'on allait essayer de vendre
son
livre d'Elliot et les loups, quoi.
Quand il regarde son livre, il est content par rapport à ses copains, il a envie de...
Je pense pas qu'il réalise trop
Par exemple, tu fais des images de lui, est-ce qu'il s'entraîne que... Non, mais bien sûr, mais parce que maintenant il commence à aborder un petit peu le média, j'allais dire.
Il est très à l'aise, c'est comme tous les gamins qui ont été filmés assez tôt ou mis en avant un petit peu assez tôt. Il est assez à l'aise.
Ah, donc il a un côté acteur déjà.
Ouais, il aime bien jouer. Après, peut-être parce qu'il passe du temps du coup avec nous aussi.
Ouais, je crois qu'il aime ça.
D'accord.
Ouais. Mais une fois de plus, on ramène tout ça au jeu. Je veux dire, c'est un gamin, quoi. Si on l'ennuie,
Non, mais il y a des enfants qui vont être un petit peu plus discrets. C'est vrai que sur l'image.
Non, mais ça, Elliot, t'es pas hyper discret, donc ça, on n'a pas
trop. On a des problèmes à la fin, mais pas des problèmes au.
Voilà,
il est assez à l'aise avec lui-même.
Donc il ne faut pas lui apprendre à jouer du djembé avec une écorce d'arbre, par exemple, ou un truc comme ça.
Non,
mais par exemple, j'ai réalisé un tout petit teaser que j'utilise dans les conférences, qui fait beaucoup rire les enfants.
Qui est visible sur YouTube en tapant Elliot et les loups.
Et là, je lui ai demandé de jouer, de répéter après moi toutes les phrases qu'il a répétées. Après, en studio, on a fait ça, enfin studio à la maison, mais on a fait ça après avoir tourné les images, et il a fait ça très bien. Il me répète mais ce que je lui demande de répéter, il y met le ton. Donc,
Annette, tu connais ton slogan. Là,
c'est ça.
On va le passer, tiens.
Voix en expansion.
Allez, on le passe. Allez, on le passe.
Please evacuate this building.
Voix en expansion.
Il faut se retirer les doigts du nez. Oui, c'est obligatoire.
Voix en expansion. T'arrives toute là-bas ou pas?
Eh hey, oh!
Voix en expansion. Un magazine pour discuter, échanger.
Informer, dénoncer.
Sensibiliser, balancer.
Et mémoriser.
C'est qui d'après vous?
Voix en expansion.
Attention, les voix s'étendent,
s'épandent et s'accroissent,
se développent, augmentent,
se diffusent et se propagent sur le web,
sur les ondes et dans l'espace. Attention, voix...
Voix en expansion.
Un magazine autoconstruit par l'association La Malle aux Libertés.
Ouh, ça c'est de l'information. C'est clair, c'est précis. Je vous tire son chapeau, madame.
Voilà. Alors, Annette, c'était qui faisait le jingle, là, finalement? Est-ce que tu peux nous expliquer? Parce que, pour dire que les enfants portent les rêves des parents, finalement.
Des parents et des grands-parents.
Ah oui, c'est vrai.
Voilà. Zéphyr, à 2 ans et demi, donc, a fait le jingle avec nous. Voilà.
D'accord.
Et c'était rigolo, justement, parce que quand il répétait « voix en expansion », Et ben, il disait à son papa et à sa maman, chut, je travaille.
Voilà.
Voilà, donc voilà, il prenait chut, ça vraiment à cœur.
C'était et, voilà, ouais, deux ans et demi, ouais. C'est quand même pas mal. Ils savent tout de suite où est-ce qu'ils vont et pourquoi ils le font et comment ils font plaisir aux autres. Et ils le font.
Ah, puis j'aime ça. Je
et ils se font plaisir aussi, ouais. Ouais, complètement.
Alors, on n'est pas dans le. Nous, c'est ça, complètement. Je crois que j'ai déjà vu pas mal d'émissions de télé. Enfin, nous, on n'a pas trop de télé ici, mais. Souvent, des enfants partent en Afrique, et puis après, il y a des lions, des tigres, des machins, et on voit toujours ces images d'enfants avec un tigre, un lion derrière, c'est pas du tout l'objectif. Je pense, à travers ça, il y a quand même, on sent, là, quand tu nous parlais des Abruzzes et autres, montrer que le loup n'est pas ce qu'il était, c'est ça? Parce qu'il est ce qu'il était, ce que nous, ce qu'on pense qu'il est, ce que nous on porte dans notre imaginaire.
Voilà, et c'est pour ça que je dis que les petits Italiens, eux, vraiment se marrent quand ils entendent parler des craintes qu'on a en France, parce que eux, le loup, ils le connaissent.
Ouais, mais Dolto ou autre, ils diraient il faut bien avoir une petite peur de quelque chose. Alors, qu'ils ont peur de quoi? Il y a quoi? Il y a l'homme en noir, il y a
l'enfant, j'en sais rien. Mais disons que par exemple, Eliot, je ne sais pas pour les petits Italiens, mais Eliot fait clairement la différence entre l'animal loup
et la légende du loup. Quoi.
Et la légende du loup. Et il nous dit clairement, ça, c'est une histoire pour faire peur aux petits enfants.
Ah oui, il a fait la différence.
La maîtresse, quand on est rentré en France, elle a aussi, puisque Eliot était à l'école en Italie, il est retourné à l'école en France quand on est arrivé. Et la maîtresse a profité de notre retour. Bah, nous, on est intervenu dans les écoles, bien évidemment, dans l'école d'Eliot pour raconter notre histoire. Et la maîtresse a profité de ce moment-là aussi pour travailler sur le loup, mais justement sur les fictions, sur les contes pour enfants à ce moment-là. Justement pour bien faire la différence entre le vécu d'Eliot, les vrais loups dans la nature. Et puis les loups dans les histoires et contes pour enfants. Quoi.
Oui, et du coup, la différence culturelle sur un animal aussi.
Oui, mais je pense que c'est un peu comme le Père Noël. Tout le monde sait qu'il n'existe pas, mais finalement, on le met, il est content.
Je sais pas s'il faut le dire à la radio, ça.
Ouais, non, Père mais... Noël, mince.
Ah, merde, c'est vrai.
Ouais, c'est ça, ouais.
Non, mais ça sera après.
Ah, merde.
Les personnes écoutent. Eliot, voilà. Ben, en fait, c'est un petit bonhomme rouge. Il n'existe pas. Mais si, il existe dans l'imaginaire.
Non, mais il y a le vrai
monde.
Père Noël et puis les histoires du Père Noël qui n'existent pas.
Voilà. Ouais, voilà.
C'est comme le loup.
Il faut toujours faire la différence entre.
Ben c'est important quand même cet imaginaire que vous allez essayer de, j'allais dire, de voir à travers une lentille et quelque chose par le média. Donc vous voulez passer par le visuel maintenant. C'est vrai que et ça semblerait.
Mais c'est important pour nous passer par le visuel parce qu'une fois de plus, j'insiste avec ça, mais nous, toutes les images qu'on a faites sont des vraies images. Il
n'y
a pas de montage, c'est du concret.
Bah oui.
C'est une vraie histoire. Je veux dire, toutes les anecdotes qui sont dans le livre sont des anecdotes qu'on a vécues, c'est des petites phrases qu'Eliot a dites. Donc ce ne sont que des vraies choses. Et quand on montre des vraies choses, on ne peut pas aller contre. Je veux dire, quand je vous montre Eliot, j'ai une image où on a Eliot et sa maman qui sont devant une meute de sept loups. C'est une vraie image. Je veux dire, on ne peut pas dire que c'est faux. C'est la réalité. On est dans
non,
un.
Non, mais moi, Fabien et Virginie, je pense qu'on va faire une déclaration à la DAS. Parce que vous emmenez des enfants voir des loups. Je pense que c'est un moyen de placement. Non, c'est quand même grave. C'est presque la maltraitance, puisque le loup est le monstre le plus terrible. Je disais tout à l'heure que, par exemple, l'Instit avait suivi un peu de loin le voyage et le retour. Donc, elle avait cette volonté éducative de montrer autre chose du loup. D'accord? Ou pas?
Oui, en tout cas, pour que les enfants fassent la distinction dans leur esprit entre les deux loups. Quoi.
Parce que le Jura, quand même, le loup, il est par là-bas.
Ah, il est juste à côté de chez nous, là.
Voilà. Et on vous a jamais dit, mais non, mais n'importe quoi. Toi, tu fais des conférences, des choses comme ça.
Quand tu dis ça aux adultes qui ne connaissent pas, forcément, les enfants, ils s'en moquent, hein. Alors clairement.
Ouais.
Mais quand tu dis ça aux adultes, tu dis, mais vous savez, maintenant, il y a le loup qui est vers chez nous. Bah, tu vois, dans la tête
dans
des gens,
regards,
que mais et j'ai eu la réflexion, mais on peut quand même aller se promener. Donc tu vois, il y a du boulot.
Là, ouais, tu viens de dévoiler un truc qui était officieux, si tu veux.
Voilà.
Parce que préfectoralement, ça ne va pas trop le faire. Tu vois, les infos, il ne faut pas trop les remonter.
Voilà, le loup n'est
c'est
pas censé.
C'est ce que j'allais dire, l'acceptation du...
Le loup n'est pas censé être dans le jeu. Hein. Bon, bah, il est dans l'aine, là-haut, alors.
Non, mais enfin, ça ne se dit pas trop. Disons qu'il n'a pas causé de problème, donc pour l'instant...
Ah bon ?
On n'en parle pas trop.
Ah, le Jura n'est pas le Vercors. Alors,
D'abord, on n'a pas les mêmes quantités pour commencer. Et ensuite, on a pas mal de faune sauvage. On a beaucoup moins de chasse que chez vous, dans le Vercors.
D'accord.
Malgré tout. Et sur les zones de montagne, ça chasse beaucoup moins. Et on a quand même une faune assez abondante depuis.
Donc il y a un bon garde-manger.
Donc il y a un bon garde-manger. Voilà.
Alors, nous avons avec nous Philippe, qui lui aussi a écrit un petit livre pour les enfants autour d'une histoire. Et dont l'objectif était quand même de on va dire, démystifier, ou comment on peut dire ?
Oui, c'est un bon terme.
C'était de démystifier un peu le loup. Comment toi tu l'as ressenti à travers cette écriture, Philippe ? Le livre, c'est ?
Loupeau et renard.
Loupeau et renard. Est-ce que toi, que ça t'a choqué ? Enfin, peut-être que ça ne se voit pas à la radio, mais... Une autre génération, toi, tu, de toute façon, toi, c'était pas les loups quand t'étais jeune, c'était plutôt les fafouins, les, quoi, les fafouins, mais...
Disons que les loups, j'ai quand même appris à m'y intéresser légèrement à votre contact, parce que vous avez fait beaucoup de choses vis-à-vis des loups, vis-à-vis de cette méconnaissance, finalement, de l'animal sauvage. Alors, moi, dans ce livre... J'ai trouvé ce rapprochement particulièrement intéressant entre l'inconnu et le connu.
Alors pour nos auditeurs, c'est un loup des Abruzzes qui débarque dans le Vercors, c'est ça ? Et ce loup rencontre un renard.
Voilà, c'est un étranger qui est perdu, qui s'imagine que... Bon, d'abord, il ne connaît pas la frontière, donc il pense qu'il est toujours dans le même environnement, et il s'aperçoit qu'il y a un comportement différent du regard des autres. Et il ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi il y a une ligne qu'il ne faut pas franchir. D'un côté... On peut vivre, on peut se comme un animal sauvage, il faut se battre dans la vie pour vivre, mais on peut le faire très bien. Et puis d'un autre côté, on est plutôt mal accueilli à cause de tout un tas de
préjugés,
d'histoires, de préjugés qu'on a inculqués depuis des générations dans l'esprit des gens.
D'accord. Est-ce que cette fable, comme les fables, nous ramène toujours à quelque chose ? Donc ce serait un peu cette, j'allais dire, accepter le loup, c'est accepter la différence peut-être ou...
Oui, absolument, absolument. C'est, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, l'inconnu nous fait peur. Alors peu importe que ça soit un animal, une personne, la couleur d'une personne éventuellement, tout ce qu'on ne connaît pas bien, on l'appréhende mal et on en a peur... par réflexe
protection.
De protection. Hein. C'est ce que dit un peu notre voisin Daniel Pénac. C'est naturel, hein. Faut pas, c'est normal. On ne connaît pas, c'est la protection. Ça vous parle, vous, hein, évidemment. Merci Philippe pour ce petit aparté. Cette petite édition de Lupo et Renard, c'est vrai qui a été lue localement par les gens, qui a été jouée à Base Nature régulièrement, puisque c'est créé ici.
Et puis qui est un outil du coup pédagogique.
Voilà, donc qui sera prolongé bien sûr avec le film Elliot et les loups.
Complètement. Et justement, moi, je voudrais faire le lien avec la petite phrase d'Eliot, hein, qu'on peut retrouver justement dans le livre d'Eliot et les loups, qui dit, qui a dit
au contact d'un renard,
peut-être que celui-ci, il a appris à l'école des renards, celle-ci où tous les renards, qu'il fallait pas avoir peur des hommes.
Bien. Oh.
Eliot, 3 ans et demi. Voilà.
Ça nous ramène à la...
C'est extraordinaire, du coup, cette similitude. Voilà.
Fabien a dit, les choses arrivent comme ça, quand on les lance un peu. Alors, on va dire à nos auditeurs. Déjà, je pense qu'on va commencer à attaquer la fin de l'émission, quand même, Annette. On va quand même se quitter. On va mettre tout en lien, bien sûr, pour qu'on puisse gratter un petit peu sur Internet. On va mettre le lien Edilive de Philippe... bien sûr, pour qu'on puisse le commander au moindre prix. Parce que c'est vrai qu'on ne fait pas d'argent avec ça.
Avec un livre
Non, pas franchement.
Pas trop.
Non, pas trop. C'est un combat. C'est un combat. Alors, nous avons Virginie. Virginie nous parle. Virginie, tu fais bouillir la casserole.
Nous avons auto-édité notre livre grâce à un financement Ulule. D'ailleurs, nous remercions les contributeurs qui ont cru en...
Merci les contributeurs.
Voilà. Et donc, effectivement, en auto-édition, on arrive mieux à gagner notre vie, même si l'objectif n'était pas là. Il était avant tout de retracer l'histoire d'Eliot, ce qu'il a vécu, non seulement pour lui, pour qu'il en ait un souvenir, mais
aussi partager.
Pour l'ensemble des enfants. Mmh. Et du coup, ça peut aussi servir de support pédagogique... aux enseignants, en fait, le livre Elliot et les loups, on n'en a pas trop parlé, mais si on doit conclure, en tout cas, il suit deux fils conducteurs, donc à la fois toute la vie du loup sur une année, donc le côté un petit peu scientifique du loup.
Naturaliste. Pas très scientifique. Mais...
Et un autre côté, les réflexions, la perception d'Eliot sur cette aventure. Et enfin, on a un troisième fil conducteur plus pour les éducateurs où on retrouve dans ce carnet de voyage un ensemble de textes qui reprennent énormément de genres littéraires. Donc on part sur de l'informatif puisqu'on a quand même fait une petite partie vraiment informative sur le loup. On a beaucoup de narratifs, on a du descriptif, on a du poétique avec parfois du poétique un peu fantaisiste. Une fable détournée, le petit chaperon rouge, donc pas parodié, non, la fable parodiée, le petit chaperon rouge un petit peu détourné, etc., etc. Voilà, on a voulu.
Alors tous les deux là, parce qu'en fait toutes les celles qui font bouillir la marmite, qu'elles-mêmes, donc là les mères louves là, Annette, même si on est grands-parents loups. En fait, vous avez l'espoir peut-être que en plantant en plantant des petites graines, bien sûr, mais en changeant un peu cette mentalité chez les enfants, ça va changer un peu le comportement par rapport à l'autre, à l'étranger.
Bien sûr, l'acceptation...
Je change, c'est Annette qui a interviewé.
L'acceptation du vivre ensemble. Et l'ensemble, c'est ce grand ensemble.
Ok, que les Italiens ont compris.
Et je vais juste terminer, parce que je suis vraiment d'accord avec ça, parce que moi, dans mon idée, le loup, en dehors d'être un animal qui me fascine, c'était pour moi surtout un symbole.
Oui.
Et ça reprend exactement ce que Philippe disait. Pour moi, le loup, c'est le symbole de la différence. Et c'est le symbole de l'être, de la chose non acceptée. Et parce que justement, inconnue, différente, etc. Alors après, on peut vraiment tourner très très large autour, comme on disait, par rapport aux migrants, par rapport aux étrangers, par rapport à la différente couleur, etc. Et c'est un des vecteurs que j'aimerais mettre en avant dans ce film, en dehors de cet aspect respect du loup, c'est le respect tout court, quoi. Mm. Donc qui peut aller bien au-delà, c'est très prétentieux, hein, mais...
Non, mais
c'était vraiment ça. Pour moi, le loup, c'est vraiment un symbole.
Oui, je crois que...
C'est le symbole du mal-aimé.
Nos amis amérindiens d'époque et nos cueilleurs-chasseurs vivaient en permanence avec le loup et s'en sont toujours portés pas plus mal, et c'était leur frère, puisque... Le loup leur servait pour la chasse, et ils chassaient ensemble. Et c'est vrai que ce rapport de peur, il a existé peut-être, ce qu'on disait tout à l'heure, un petit peu, il y avait un peu le satanisme quelque part, le mauvais, le mal, il fallait pas aller dans les forêts, etc. Bah, je crois qu'on a fait un grand tour, Annette.
Eh bien, une émission riche encore
De rencontres. Expansion de voix pour... Et, alors,
là, de rencontres et d'espoir.
D'espoir. Mmh. Alors, j'espère qu'on aura quand même... Au moment, je ne sais pas si c'est une des premières émissions que vous faites, mais en tout cas, nous, on est super contents de vous accueillir. J'espère qu'on sera quand même prévenus à la sortie du film.
Merci de votre accueil, en tout cas. C'était très
voilà. Bon entier, et vous en premier.
Voilà, voilà, hein, histoire de prévenir nos auditeurs. Mm. On met tous les liens. Alors, le lien avec le taser, le lien avec les photos. Il y avait un autre lien. Moi, j'aimerais bien quelques liens sur qu'est-ce que c'est que les Abruzzes, un petit, si jamais les gens ont envie de partir. Tu vas cacher que tu organisais des voyages dans les Abruzzes. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'espère qu'on va pouvoir le placer.
Alors, eh ben, avec un collègue, on part dans les Abruzzes depuis 7 ans. Et on organise des séjours d'une semaine à l'affût des loups, des ours, des cerfs.
Donc, tu vas encore partager ta connaissance du terrain, ta connaissance des loups. Ouais. Le rapport aussi que tu as avec les gens sur place. C'est-à-dire que sur place, on peut voilà, voir un peu comment ça se passe. Oui. Il serait intéressant peut-être de voir avec, je me rappelle, un voyage qui était organisé, tu te rappelles, il y a assez longtemps, Annette, avec le CIPRA, où on amenait les élus voir dans les Abruzzes, c'était oulala, c'était avant que tout arrive ici, c'est-à-dire il y a une vingtaine d'années, pour que les élus se rendent compte. Donc il y a une association qui s'appelle le CIPRA, qui dynamise un petit peu tous les élus de l'arc alpin. Et Dieu sait que les Apennins et les Alpes... comment on appelle les Alpes par là-bas, la chaîne
Les Apennins.
Les Apennins. Les Alpes, mais après se transforment en Apennins.
Les Apennins font partie vraiment des Alpes. Hein. Ouais. Et donc, c'est intéressant de le voir, parce que, pour y croire. Parce que quand on parlait tout à l'heure avec plaisanterie du bus qui s'arrête pour voir les ours, moi j'ai vu des mémés et des pépés arriver dans les Abruzzes, parce qu'il y avait aussi une réflexion, qu'est-ce qu'on va faire toute la journée de ce bus de personnes à mobilité réduite? Les amener dans des écomusées, je ne sais pas si ça existe toujours, les emmener dans un parc où il y a quand même des loups qui sont là, Chivitella, où on peut faire quelques photos et ramener à sa petite famille des loups. C'est-à-dire qu'on peut y aller en short et en basket, on n'est pas obligé d'être... c'est pas comme si on allait en Pologne, quoi, ou je ne sais pas où, en Biélorussie, où tu fais d'autres voyages. Oui. Mais on peut y aller entre la visite de Rome et de Naples. Et puis si on passe de l'autre côté, on peut se dire, tiens, on va se faire un petit moment dans le... Et c'est comme ça que ça fonctionne, en fait.
Ouais. Et puis un truc important par rapport à ce que tu disais aussi, ça serait simplement que les gens voient des loups. C'est-à-dire que c'est pas uniquement voir comment ça marche, mais simplement de voir des loups. Parce que moi, j'ai eu le cas dans les séjours où j'ai un gars qui a photographié, un de mes meilleurs copains maintenant d'ailleurs, qui a photographié un renard un matin de loin en contre-jour.
Ouais.
Et il me disait juste que le renard avait une queue bizarre, très fine, etc. Et en fait, quand il m'a montré les photos, je lui ai dit bah, fais-moi quand même voir ton renard parce que ça m'intriguait l'histoire. Et en fait, c'était pas un renard, c'était un loup. Et en fait, les gens imaginent cet animal comme étant une énorme bête féroce.
Ah bah, ouais.
Alors qu'en fait, c'est juste d'abord, c'est un petit animal, hein. c'est pas très gros, surtout le loup des Abruzzes, qui est un petit module comme celui qu'on a en France. Mais les gens imaginent toujours cette bête féroce énorme, alors qu'en fait, c'est juste un animal.
Donc, le lien, en fait, pour trouver les deux livres, donc à la fois celui de Fabien, Loup sauvage par nature, et notre carnet de voyage, Elliot et les loups, en fait, c'est www.elliot-6-loup.com. Loup avec un S.
D'accord. Ok. Est-ce que vous avez un blog peut-être ou des choses comme ça? Moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'un coup, il y a quelqu'un qui s'est dit « Ah, j'aimerais partir avec vous. » Est-ce que c'est possible? Alors, je sais que Base Nature a déjà organisé des voyages avec des enfants dans les Abruzzes. Est-ce que ce genre de voyage famille, est-ce que c'est possible de le monter aussi? Pas partir qu'entre bonhomme vert. J'allais dire bonhomme vert qui pense à faire des coches.
Naturaliste.
Est-ce que ça pourrait être une autre piste?
Alors, nous, on ne le fait pas aujourd'hui.
Pourquoi pas? Mais après, nous, on est ouvert à plein de choses.
Voilà, hein. voilà une belle conclusion.
Nous avons des amis sur place qui ont un bel hôtel. Tout est faisable, qui serait très content d'accueillir.
Donc, il peut y avoir les parents qui vont peut-être aller regarder les loups, les autres, exactement. Ils ont atteint. Il y a pas mal de choses à faire, j'imagine. Culturellement, ça doit être assez sympa. Culinairement, excusez-moi parce que
c'est
ça.
Pasta.
Non, puis il n'y a pas que ça, je crois. Y a pas que ça.
La pizza.
Ok. Eh bien, écoutez, merci et ben, à très bientôt, j'espère. Avoir de vos nouvelles.
Ben oui, merci.
À très bientôt. Ciao, ciao.
Chez la jolie Rosette au café du canal, sur le tronc du tilleul qui ombrageait le bal, on pouvait lire sous deux cœurs entrelacés. On peut t'apporter ses baisers.
Moi, mes baisers, je les avais perdus. Et je croyais déjà avoir tout embrassé.
Et je ne savais pas que tu étais venue. Et que ta bouche neuve en était tapissée.
La chance jusqu'ici ne m'avait pas souri. Sur mon berceau, les fées se penchaient pas beaucoup.
Et chaque fois que je tombais dans un carré d'ortie, il y avait une guêpe pour me piquer dans le cou.
Pourtant ma chance, aujourd'hui elle est là, sous la tonnelle verte de tes cils courbés.
Quand tu m'as regardé pour la première fois, ma vieille liberté s'est mise à tituber.
On était seul au monde dans ce bal populeux. Et dans une seule main, j'emprisonnais ta taille.
Tes seins poussaient les plis de ton corsage bleu. Ils ont bien failli gagner la bataille.
J'aime le ciel parce qu'il est dans tes yeux. J'aime l'oiseau parce qu'il sait ton nom.
J'aime ton rire et tous ces mots curieux que tu viens murmurer au col de mon veston.
Je revois tes mains croisées sur ta poitrine, tes habits jetés sur une chaise au pied du lit.
Ton pauvre cœur faisait des petits bonds de sardine quand j'ai posé ma tête contre lui.
Dieu, tu remercies Dieu, ça fait bien de toi. Mais mon amour pour toi est autrement plus fort.
Est-ce que Dieu aurait pu dormir auprès de toi
pendant toute une nuit sans toucher à ton corps?
la jolie Rosette au café du canal.
Sur le tronc du tilleul qui ombrageait le bal.
On pouvait lire sous le cœur s'entrelacer.
Ici, on peut apporter ses baisers.